Boa.
Culture sans frontières, Anna Kubista.
Bonjour, c'est mercredi que s'est achevée la 12e édition du Festival international du documentaire de Yerlava, après la soirée de clôture du 28 octobre qui a révélé le palmarès des films vainqueurs pour 2008. Alors dans cette émission, je vous propose de découvrir un peu mieux ce festival qui s'est vu une plateforme, un pivot en Europe centrale où convergent et se rencontrent les créations de documentaires d'Est et d'Ouest. C'est un drôle de symbole que celui du festival de Yerlava. En effet, c'est un entonnoir qui est la mascotte de ce rendez-vous annuel depuis 12 ans. Une curiosité que décrypte pour nous le directeur du festival, Marek Hovorka.
Protože vlastně vy ho můžete používat velmi kreativním způsobem a vždycky vám nějakým způsobem jakoby...
C'est parce qu'on peut utiliser un entonnoir de manière très créative et un entonnoir peut vous aider. En le mettant contre son oreille, on entend mieux. Si vous le mettez à la bouche, on vous entendra mieux. Si vous regardez le monde à travers l'entonnoir, quel que soit le bout, vous le verrez autrement. Cette découverte ludique du monde est une sorte de métaphore de la manière dont nous souhaitons que le festival fonctionne. Les films présentent souvent des thèmes importants, mais souvent de manière surprenante. Pour nous, il est important que les gens ne sortent pas du cinéma déprimés, mais avec une nouvelle vision du monde. Le cinéma ne peut pas changer le monde, mais il peut changer les spectateurs.
En 12 ans, Yerlava est devenu un rendez-vous important du documentaire en Europe centrale, mais comme le rappelle le journaliste critique de cinéma au quotidien Pravo, Michal Prochaska, pour comprendre l'esprit du festival Yerlava, il faut remonter à ses origines.
Je crois qu'il faut d'abord revenir à l'époque où le festival était fondé. Ce qui était très important, c'était le festival fondé par les étudiants de FAMU eux-mêmes qui ont essayé de créer quelque chose qui irait fonctionner pour le cinéma documentaire parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Cette espèce scolaire, cette espèce étudiant, cette espèce de jeunes gens qui étaient les amateurs du cinéma est très important pour le festival. C'est le festival sans vedette, sans... publicitaire, sans d'espèces commerciaux. Je crois que c'est le festival qui essaye de combler une espèce alternative, avant-garde, peut-être off-mainstream de la République tchèque. Et c'est le festival qui est aussi le point de départ pour beaucoup de cinéastes, pour beaucoup d'étudiants tchèques qui ont de l'occasion de présenter leurs premiers films, leurs premiers petits documentaires, mais aussi les premiers films expérimentaux. Et c'est aussi c'est le festival qui est d'une façon très ouvert et très démocratique en tant que de rencontre entre le public et le réalisateur, parce que il y a une ambiance, une atmosphère assez libérale, assez informelle.
Pourtant, certains habitués du festival avouent que l'esprit originel de Yerlava tend quelque peu à disparaître à mesure que le festival prend de l'ampleur, comme le regrette cette étudiante. Moi, je ne vais pas aux autres festivals de cinéma que je trouve trop commerciaux, mais ces derniers temps, j'ai peur que c'est ce qui arrive aussi à Yerlava. Quand on a commencé à venir ici, c'était plus petit et plus alternatif. J'ai l'impression que la visibilité du film documentaire est beaucoup plus importante depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en République tchèque, ce festival y a contribué particulièrement, j'allais dire, dans les salles de cinéma, hein, parce que finalement, on voit de plus en plus de films documentaires dans les grandes salles de cinéma, dans les salles de cinéma, mais aussi à la télévision, bien sûr.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y en a plusieurs films documentaires dans les salles de cinéma, et c'était bien différent qu'avant, parce que avant, il n'y avait rien. Mais quand même, je crois que c'est toujours difficile de parler de business par rapport au cinéma documentaire parce qu'il s'agit de projets sans des possibilités de gagner de l'argent. Il s'agit de projets soutenus par la télé. Je crois que le cinéma documentaire, ça fait des années, a subi beaucoup de problèmes de s'imposer à la distribution. À la distribution tchèque, mais aussi européen. Et je crois que des festivals, le festival de Yerlava, par exemple, est à mettre en valeur le cinéma documentaire qui peut subsister, qui peut exister quand même, malgré tout, malgré les formats. Je crois que le festival de Jihlava puisse attirer l'attention au cinéma documentaire, puisse soutenir les formes de production, comme on peut voir ici, dans le cadre de East Silver et d'autres. Et le festival aussi puisse trouver vraiment des modes de distribution, parce que c'est bien difficile de trouver une place, de mettre le film.
C'était le critique de cinéma Michal Prochaska, et pour Marek Hovorka, le directeur du festival, la plus grande visibilité du cinéma documentaire a plusieurs explications.
Hraný film.
Dans une certaine mesure, le cinéma de fiction, en République tchèque très certainement, mais ailleurs aussi, est en crise. Et les films de fiction qui ont du succès sont très influencés par le mode documentaire de tournage et d'appréhension du jeu d'acteur. C'est lié au changement technologique. Aujourd'hui, c'est très simple de réaliser un film documentaire. Du coup, il y en a plus et il trouve plus facilement un public. Sinon, je pense que le documentaire doit aussi beaucoup à Michael Moore.
Récemment, en France, il y a eu ce festival, il me semble le festival de Lussas, qui était les états généraux en fait du film documentaire, où la République tchèque était très bien représentée. J'avais discuté à l'époque avec le directeur artistique, qui m'avait dit que c'était intéressant parce que quand on voyait la création des documentaires des jeunes réalisateurs qui sortent de la FAMU, ils ont des techniques très différentes ou une formation très différente, très spécifique par rapport à d'autres écoles. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser et en quoi justement ça fait la richesse de la création tchèque?
Oui, d'abord il faut dire que nous ici en République tchèque, nous avons parfois l'impression d'être négligés en tant que la culture entre les grandes cultures occidentale et la culture, par exemple, russe ou de l'Extrême-Orient. Alors que si on regarde les films documentaires, on a l'impression que sont beaucoup plus intéressants que le cinéma de fiction, par exemple. Et je crois que maintenant on peut parler d'une école de cinéma documentaire à FAMU, parce que les étudiants de Karel Vachek ont trouvé beaucoup de courage d'expérimenter, de chercher d'autres modes d'emploi, d'autres modes de filmer. Mais ce qui est aussi le thème, quand on regarde beaucoup de films documentaires dans la télé, notamment dans la télé occidentale, on voit que tout était formaté. Ici, nous sommes toujours attachés à certaines formes du cinéma documentaire comme un film d'auteur.
C'était encore le critique de cinéma Michal Prochaska. Alena est étudiante et une fidèle du festival de Jihlava. Je viens de voir le film Noël en Bosnie de Remunda et Klusak. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par leur film. C'était court, drôle et je ne me suis pas ennuyée. Noël en Bosnie, c'est un petit opus cinglant du duo Klusak-Remunda, les enfants terribles du documentaire tchèque, rendu célèbre par leur film Le Rêve tchèque, qui a été également en distribution en France. Dans le court documentaire qu'ils présentaient à Jihlava, ils ont suivi un groupe de stars de la pop tchèque parti donner un concert de Noël en Bosnie aux soldats tchèques stationnés dans le pays en 2001. Le décalage joue à plein dans ce documentaire. Noël en Bosnie était en compétition dans la section La Joie tchèque, mais n'a pas été retenu par le jury. Avant l'annonce du palmarès, je m'étais entretenue avec un des membres du jury, une théoricienne et critique de cinéma américaine, Alice Lovejoy, aussi à l'aise en tchèque qu'en français. L'occasion d'évoquer son rôle, mais également la section documentaire dont elle avait la charge dans le festival.
Ouais, je suis sur la jury. C'est seulement une section de 17 films tchèques qui étaient faits pendant la dernière année. Et nous sommes 5 sur le jury et on choisit un film qui va gagner un prix pour le meilleur film tchèque.
Vous avez des critères un petit peu personnels qui vous guident?
Je pense que mes critères sont esthétiques et aussi plutôt formels. C'est une question formelle, c'est aussi une question de si le film est intéressant, si ça marche. C'est difficile à répondre à ces questions-là, mais
un peu plus sur votre travail, parce que vous travaillez vous particulièrement sur le cinéma. Est-ce que vous pourriez un petit peu me présenter c'est une thèse de doctorat, je suppose, ou c'est ça un petit peu votre travail? Vous travaillez justement sur le cinéma.
Oui, c'est ça. Je suis une doctorante à l'université Yale aux États-Unis et je fais mon doctorat dans le département de littérature comparée et de du film. Et j'écris sur le studio d'armée, le studio du film d'armée ici à la Tchécoslovaquie, entre 51 et 71. Bah, c'est une histoire d'une studio qui a transformé d'une studio qui faisait des films plus ou moins propagandistiques jusqu'à un festival, un studio qui faisait des films artistiques. Et donc, ce que je fais ici à Irava, c'est que j'ai quatre sections de films qui décrivent cette transformation. La première, on a vu cinq films des années 50 dans le studio, ce qui sont des films qui sont du propaganda, mais à la même temps, on voit des films qui étaient faits par des réalisateurs très bien connus ici, František Vlachil et les autres qui étaient dans le studio à la même temps, c'était Wojtek Jasny, Karol Kachinia, donc c'est une histoire d'une studio qui fonctionnait sur deux niveaux. Un niveau, c'était le niveau militaire et l'autre niveau, c'était le niveau artistique. Et donc, on a vu quatre films des années 60. C'était des films documentaires. On a eu deux réalisateurs avec nous qui ont décrit leur travail dans le studio. C'était Karel Vachek et Rudolf Adler. Et tous les deux sont des profs à FAMU, dans le département de documentaire. On va voir les films qui était fait pendant le temps entre 68 et 71. Et ce sont des films documentaires aussi, et c'est très, très intéressant parce que les films sont plus radicales qu'on peut penser.
Comment se fait-il que ces réalisateurs se trouvaient dans ce studio, ils faisaient leur service militaire à ce moment-là?
Ouais, c'était ça. C'était une manière de faire le service militaire. Et ils étaient plus ou moins, ils avaient de la chance d'avoir l'opportunité de faire leur service dans cette studio-là.
Finalement, ces grands cinéastes, Wojtek Jasny, Karel Vachek, ont fait leur premier pas en tant que cinéastes, finalement, dans ce studio-là, en fait. Et après, quel est un peu leur parcours aussi après, par exemple?
C'était pas toujours la première étage de leur carrière parce que la plupart de ces cinéastes-là ont commencé leur travail à FAMU. Mais après ça, ils ont continué de faire leur travail au studio d'armée et puis de continuer à Kratky Film ou à Barrandov. Donc il y avait beaucoup de pistes, on peut dire, mais c'était toujours à la commencement de la carrière.
Bye Bye Shanghai était un autre film présenté à Yerlava. La documentariste Yana Bokova, qui vit en Argentine, est allée se confronter à la problématique de l'exil en allant interroger des Tchèques qui ont émigré sous les années de communisme. Certains étant revenus à Prague après 1989, d'autres étant restés dans leur pays d'accueil. Un documentaire déjà présenté en première à Karlovy Vary en juillet dernier, où l'on retrouve de grandes figures de l'exil comme Vladimir Třešňák, Petr Král, Václav Bělohorský et bien d'autres. Voilà, c'est tout pour le tour d'horizon du Festival du documentaire de Yerlava. Vous pouvez consulter le palmarès sur le site du festival www.document.yerlava.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.